Salut tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode de l'AI Engineering Podcast. Aujourd'hui, de nouveau avec Alexis qu'on avait eu il y a quelques semaines et Julien, as usual. Comment ça va Alexis?
Ça va bien, ça va bien. Et vous, les gars?
Très bien, content de te revoir. Yes.
Yes,
Il y a
avec
beaucoup de choses
plaisir.
qui ont changé dans tes opinions en quelques semaines ou pas?
Non, pas des masses, ouais. Et ça va toujours aussi vite, donc on va débriefer. Il y a pas mal de nouveautés, monsieur.
T'as rajouté des nouveaux outils dans ta besace?
Bah, j'ai testé Nao, tu vois, je te
Ah.
disais. Je ne l'ai pas encore intégré, mais j'ai testé Nao. Bah, après, non, bah, tu testes les outils que tu as envie d'intégrer. Enfin, en tout cas, c'est ceux qui sont proposés, ceux qui te passent sous les yeux. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, il n'y a pas une seule journée dans laquelle il n'y a pas quelqu'un qui annonce quelque chose. Et je
Ouais.
pense, enfin, aujourd'hui, j'essaie de moins regarder ce qui se passe ailleurs et je me colle principalement sur la roadmap d'Anthropic. Parce que déjà, eux, ils en sortent toutes les semaines, quasiment tous les jours. Et c'est déjà dur à suivre et à intégrer dans toute notre stack. Donc, opérationnellement, je pense que ouais. Oui, j'avais déjà vu ce truc-là.
Ouais.
D'ailleurs, maintenant, et c'est intéressant, ils shippent leurs features, non pas sur un espèce de, tu vois, de blog post à part, c'est carrément sur la home page. Je trouve ça
Ouais.
intéressant.
Bon,
Par exemple,
y a...
le scheduling, par exemple, dans Cloud Code sur le web.
Ouais.
Par exemple, bah, ça, par exemple, ça met à la poubelle un truc que j'avais déjà buildé il y a quoi, il y a peut-être quelques mois.
C'est quoi le
Le
fait de
process.
contrôler ton Telegram, ton cloud code, c'est ça?
Bah en fait, ils avaient mis un scheduler pour Cloud Cowork. Là, ils l'ont mis pour Cloud Code. Hein. C'est-à-dire, par
Ouais, ils ont
exemple.
mis ces slash loop, un truc comme ça.
Ah oui, slash loop, ouais,
Ouais,
ça
alors, c'est
c'est
un truc en
pratique, ça.
plus. C'est par exemple, là, tous les lundis matin, tu me lances un Cloud Code, mais
OK.
sur le web, pas sur mon poste de travail. Et par exemple, là, tous les lundis matin, j'ai une agrégation de l'intégralité des postes, par exemple, des tickets clients sur Zendesk.
OK.
Ça envoie ça dans Slack et ça fait un reporting dans Notion, par exemple.
OK.
Tu vois, au genre de choses. Qu'est-ce... Enfin, j'en ai plein des comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses que je faisais tourner avec un scheduler, avec de l'Airflow, avec du conteneur qui bouffait du token directement depuis l'API. Alors que maintenant, c'est directement plugué à Cloud Code. Donc, moins cher,
Ok.
moins à gérer de mon côté. Et en fait, des fonctionnalités comme ça, il y en a tous les jours, quasiment.
Attends, tu dis que tu as remplacé des trucs que tu faisais tourner avec Airflow avec Cloud Code, mais ça veut dire que c'était des trucs un peu perso, enfin genre des trucs d'automatisation perso ou même.
Non, 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 pas du perso, du pro. On fait pas
Enfin,
de l'open
perso dans le...
RPA.
Je veux dire perso dans la boîte, tu vois, genre perso de toi en tant que data dans la boîte.
Non, 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 c'était vraiment au niveau de la boîte.
Ok.
Voilà, par exemple, c'est principalement des générations de reporting, mais qu'on pouvait finalement automatiser, enfin en tout cas qu'on peut faire avec, par exemple, tu lances une skill sur ton poste de travail, mais avec ton poste de travail qui est tout le temps up. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe quand le truc n'est pas up, et puis après, il faut de la gestion de logs centralisée,
Ouais.
tu vois, de l'audit, un truc un peu plus, enfin, un peu mieux géré, décentralisé. Donc on le faisait, mais on le faisait directement via l'API. Et on le faisait avec des conteneurs, quoi, tu vois. Avec un conteneur qui est bundlisé, avec des MCP, avec des secrets côté. Nous, on est sur AWS. Voilà. Donc là, du coup, tu vois, ça, encore un truc qu'on scaffold et que tout le monde avait essayé de faire, parce que j'ai discuté avec pas mal de personnes, la manière dont ils faisaient. Et en fait, tu avais deux écoles, c'était soit tu le gérais dans un VPC, tu avais une session dans un terminal multiplexer qui tournait, et ça schedulait avec un cron, soit tu faisais à peu près ce que nous, on avait fait, c'est-à-dire un truc un peu plus industrialisé, ça coûtait un peu plus cher, mais c'était un peu plus, on va dire, ouais, un peu plus, on va dire, ouais, cadré, entre guillemets, je sais pas si on peut le dire comme ça, voilà. Et ouais, ils avancent dans cette voie-là, en tout cas. C'est une impression que j'ai. Je sais pas pour
Donc
vous.
là, ce que c'est une automatisation.
Un
Bon, en gros, c'est
scheduler.
une automation qui est schedulée, qui appelle des prompts dans un cloud code dans le cloud, quoi.
Ouais, c'est ça,
OK.
exactement. Et donc, bah, tu lui mets une date, tu lui mets même une fréquence, tu peux lui mettre
OK.
le repo sur lequel il agit, tu peux lui mettre un environnement dans lequel tu injectes tes variables d'environnement. Et ça, c'est géré au niveau de ton compte Enterprise. Donc, voilà.
OK. Ouais, donc en fait, c'était un peu la discussion qu'on avait eue à un moment sur les orchestrateurs. C'est genre, du coup, ton orchestrateur, c'est Cloud Code et tu le laisses prendre ses décisions et faire ce qu'il veut, quoi.
Ouais, exactement.
Mais là, tu te fais pour du reporting, donc c'est assez. Enfin, je veux dire, les impacts sont assez limités. Au pire, il te fait un.
Oui, c'est carrément limité.
Et tu as réfléchi à le faire, justement, le lien avec tes tickets Zendesk pour automatiquement, je sais pas, prendre des actions, des choses comme ça. Vous êtes.
Alors, bah, ça, il y a déjà des outils comme ça dans Zendesk pour le faire. Ouais, on a déjà des agents dans Zendesk qui permettent de faire ça. Mais après, j'imagine que oui, on pourrait faire des trucs encore plus complexes, ouais, forcément.
En fait, c'est une manière, enfin, en gros, c'est le N8N de 2026, quoi, d'une certaine manière. C'est ce
Ouais,
que.
c'est ça.
Exactement.
Je pense que à mon avis, de toute façon, tout ce qui est très hard-codé, entre guillemets, à mon avis, fait de moins en moins de sens.
Mais tu as besoin, quand même, enfin, ce qu'on disait avec Christophe, tu as quand même besoin de, pour certains trucs, tu as besoin d'hardcoder le flux, non? Enfin, le workflow.
Bah, je pense que tu peux faire le case. C'est un peu la différence. Mais à une époque, j'avais travaillé dans le case management et le workflow management. La différence entre les deux, c'est que le workflow, en fait, tu as un chemin qui est direct. Et en fait, tu as une logique, on va dire, algorithmique codée où tous les embranchements existent. Et tu peux pas sortir de ce flux. Le case management, c'est un peu, par exemple, moi, j'avais travaillé chez un opérateur télécom. Quand ils ouvraient des tickets, tu avais des grosses étapes. Et entre les deux, en fait, c'est l'humain qui prenait les décisions de comment
Ouais,
est-ce qu'il allait
il y a des
relancer
étapes de
le.
pause, quoi. En gros, il y a des
Voilà,
étapes
des
de
grosses
pause.
étapes de pause, voilà. Et en fait, j'ai l'impression quand même que les agents, si tu les enchaînes dans trop de harnais, tu vois, trop de complexité, en fait, tu veux essayer en fait de ne pas les faire halluciner, mais en fait, ça leur laisse beaucoup moins d'autonomie. Et je pense que c'est quand même ce qu'on veut, indirectement. Mais c'est des sujets qu'il faudrait creuser indirectement. En tout cas, ça n'a pas à voir avec le scheduling, mais.
D'ailleurs, j'ai lu un post Reddit où le gars il disait, il a mis en place des agents en production pour des PME en gros, tu vois, pour répondre automatiquement à des emails comme ça. Et il disait c'est parti, ça part en cacahuète systématiquement. Et le debugging c'est l'horreur et il y a plein d'edge cases qui sont trop durs à couvrir. Et en gros faire la démo ça va, mais pour faire le dernier pourcent, les 10 derniers % d'un
Ouais.
cas vraiment productif, où vraiment tu as ton agent qui prend des décisions pour répondre à des clients, pour répondre vraiment à des cas qui ont de l'impact, bah là c'est quand même très très dur toujours aujourd'hui.
Ouais, c'est toujours le même problème. Je pense que sur 95%, ça marche. Et après, c'est les derniers miles, ouais, qui sont compliqués.
Il y a une question aussi que je me pose souvent là-dessus, c'est que tu c'est quoi ta fréquence de refresh? Enfin, en gros, ton quand est-ce que tu démarres ton agent? Parce qu'en fait, tu peux faire ton agent que tu le démarres à l'email, tu peux faire démarrer ton agent tu vois, sur des events. Après, potentiellement, tu peux te dire, OK, je veux que mon agent il se réveille toutes les minutes pour faire quelque chose. Je sais pas, trier les emails, aller voir mes tâches, aller voir ces choses. Est-ce que tu veux qu'il fasse toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les 10 minutes? Et alors, je pense que plus tu as une fréquence élevée, plus ça peut vite partir en couille, quoi.
Ouais.
Pour open close, pour le coup, ça marche à l'event. T'envoies un
Ouais, ça marche à
message.
l'event.
Ouais.
Mais est-ce que tu veux toujours. Enfin, genre, je pense qu'il y a l'étape d'après qui est. L'event, c'est facile, je pense, de le traiter. C'est ce qu'on fait depuis longtemps sur des DAG. Mais sur les agents, potentiellement, tu as envie que ce soit un truc qui vive et qui grandisse et qui fait son propre management à lui, etc., quoi.
Ouais, savoir quand est-ce qu'il va réagir. Ouais.
Ouais,
Ouais,
c'est pour
c'est
ça
pas
que
facile.
la loop de Claude Code, elle est intéressante. L'outil loop. Tu lui dis juste de se rallumer toutes les minutes, enfin toutes les 5 minutes, de regarder l'état de ton système et de repoper des tâches en fonction, quoi.
Ouais, mais comment tu décides? En fait, ma question, c'est comment tu décides ce 5 minutes? En fait, c'est juste nous, en tant qu'humains, comment on décide ce 5 minutes? Parce qu'en fait, enfin, c'est le truc de l'orchestration. Ça se trouve, en 5 minutes, avant la prochaine, il n'a pas fini de terminer sa tâche. Bah, tu vois, il y a toutes ces questions-là. Et tu as envie que potentiellement, il finisse assez vite son truc. Qu'est-ce qu'il arrive à rentrer dans son périmètre de 5 minutes?
Après, lui, il n'a pas besoin de faire les choses en 5 minutes. C'est peut-être
Oui.
juste un démon. C'est un démon qui regarde toutes les 5 minutes ce qui se passe
Ouais.
et qui corrige les erreurs en cours, etc. Et après, il
Ouais,
délègue.
c'est exactement ça, le cas de Loop. Ouais.
Ouais.
À part que là, bon, là, c'est un peu de tordre l'usage parce que je crois me rappeler qu'on ne peut pas le faire tourner plus d'un certain nombre de temps. Mais bon, tu peux le contourner. Mais je crois que ce n'est pas
Ouais.
fait pour
Après,
tourner à 24 heures.
mais l'agent, il peut se refaire une loupe à lui-même. Donc, au pire, il
Oui,
change sa
c'est.
fréquence lui-même.
Je n'ai jamais testé
C'est
ça.
ça.
Ça peut être rigolo.
Non, en fait, j'avais testé pour faire une swarm d'agents et ça marchait plutôt bien parce qu'en fait, j'avais des agents qui travaillaient, puis à chaque fois, il y en a un qui s'éteignait ou qui était bloqué,
Ouais.
machin. Juste avec un Claude Code en loop, il regardait l'état de tout le monde et puis il relançait ce qu'il fallait. Mais après, là, t'es vraiment hands-off, quoi. Et ça peut vraiment, comme tu dis, Christophe, ça peut partir n'importe comment. Mais probablement, ouais. En fait, la grosse hypothèse, c'est justement ces 10%. Je pense que c'est ces 10% qui vont dépendre du fait
Ouais.
que ces agents ils vont pouvoir orchestrer vraiment des systèmes en production ou pas.
Yes. Sur les news de la semaine, là, OpenAI is doing everything but poorly. Là, cette semaine, ils ont annoncé l'arrêt de Sora, qui était leur réseau social TikTok AI generated entièrement, quoi. Et là, c'est bon, c'est la liste de tous les trucs qu'ils ont annoncés et qui font pas, genre le adult mode, le Stargate Project, ils ont cancel, les ads. A priori, sur les ads, ils sont quand même en train d'aller fort là-dedans, quoi. Le in-shopping app, etc. Et ils se prennent un peu des backslash en ce moment.
Bah, à chaque fois, ouais. Il y avait eu d'ailleurs le backslash d'Anthropique avec les publicités anti-pub. Je sais
Ouais.
pas si vous aviez vu, c'était le Super Bowl, je crois.
Ouais.
Quand même diablement drôle, je trouvais bien, bien. Et par contre, non, sur la partie adulte, je crois qu'ils ont pas clos le truc, hein, clairement.
Ouais, c'est sûr. Mais je pense que les trucs que j'ai vu à un endroit, genre que Sora, ils arrêtaient pour récupérer de la capacité de calcul pour la partie un peu world model, parce qu'en fait, tout le monde est un peu en train de partir aussi sur ce truc robotique, world model, parce que c'est un peu de next step, quoi. et que bah,
Ils
il va falloir
sont. Ouais, moi,
gérer
j'avais
tout
fait
ça.
un article où, en fait, enfin, c'est indirectement lié, peut-être sur l'infra, mais ils avaient déclenché ce qu'ils appellent, tu sais, un code rouge, en gros. Et ils ont recruté une nana de chez Meta et qui a dit, en gros, on va remettre Human in the Loop, c'est-à-dire qu'ils ont réembauché du middle management pour remettre les trucs d'équerre parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, quoi. Ils tapent un peu partout. Ils ont loupé, je pense, bah, de toute façon, maintenant tout le monde le voit, mais ils ont loupé un peu le train de l'entreprise et du coding. Que fait Anthropic? Eux, ils sont focus sur ces deux tâches-là, quoi, globalement. Et eux, ils essayent d'aller ailleurs. Et ils avaient quand même ouvert, tu vois, le pan du truc, quoi, avec le B2C. Enfin, tu vois, et bon, on voit qu'il n'y a aucune initiative qui marche, que ce soit l'agentic commerce. Ouais, on
En
saura
fait, je pense
qu'il y a d'autres idées.
ça veut dire qu'en gros, si on compare les deux, le seul truc qui marche aujourd'hui, c'est la vente de tokens. En gros, ChatGPT, ils ont fait le pari de mettre des tokens gratuits, mais de vendre d'autres trucs, et on voit que ça ne marche pas. Donc, en fait, pour moi, la conséquence de tout ça, c'est que les tokens vont augmenter bientôt. Si la seule manière de gagner de l'argent pour ces boîtes, c'est de vendre des tokens, c'est-à-dire que le prix des tokens va mécaniquement augmenter.
En fait,
Parce
c'est un peu,
qu'aujourd'hui,
c'est genre model
il est
is the
sous.
product, et en fait, c'est style model is the product, quoi. Plus,
Exactement.
quand tu regardes un peu Anthropic, c'est cloud code, et donc agent is the product, enfin, ou harness is a bit the product, quoi. Mais
Ouais,
c'est toujours model is the product.
en
On est
sachant que
d'accord.
les modèles vont toujours s'améliorer.
Peut-être. C'est vrai, tu penses vraiment?
Bah, je pense, en tout cas, à chaque fois, ils nous l'ont prouvé. Donc, pour l'instant, en tout cas,
Ah,
j'avais lu
sur les
la
deux, trois
loi de
dernières
Conway.
années.
Ouais, mais la loi de Conway s'appliquait toujours. Donc, il n'y avait
Moi,
pas
je pense que
vraiment.
c'est factuellement vrai, ils vont toujours s'améliorer, mais ils vont s'améliorer sur des trucs dont on n'a rien à foutre à un moment donné, quoi.
Peut-être, ouais.
Genre, que est-ce
Par
que
exemple.
bah, je sais pas, que le modèle, il soit capable de reconnaître des tableurs de comptabilité à la finesse parfaite et de faire du raisonnement de comptabilité. Moi, j'en ai personnellement rien à foutre. Et le modèle va être plus intelligent là-dessus, potentiellement. Mais genre, moi, ça aura aucun impact pour mon travail au quotidien, tu vois.
Ah, donc, tu crois que c'est pour des verticales spécifiques qui va s'améliorer? Enfin, parce que
Bah,
là,
force.
il y avait un article qui est sorti hier. Alors, je sais plus qui est-ce qui a sorti ça. Qui disait que maintenant, les grosses boîtes, enfin, beaucoup de boîtes, fine-tunaient les modèles, enfin, faisaient du post-training sur leur
Ouais.
cas d'usage. Donc, typiquement, les centres d'appel. Et en fait, donc, ils prenaient les modèles open source, ils fine-tunaient sur leur cas d'usage. Et ils avaient des résultats qui étaient vraiment meilleurs et moins chers, logiquement, que les modèles publics, quoi.
Ouais.
Et donc, du coup, en fait, c'est un peu ça que tu décris, non?
Bah,
C'est-à-dire
c'est
que
ça, mais ça, je pense que it's been the always this, tu vois. Genre, je pense que avoir le modèle intelligent ou super qui est genre l'orchestrateur principal et plein d'autres sous-branches qui sont hyper spécialisées sur tes trucs en post-train, c'est l'architecture que beaucoup de gens décrivent depuis longtemps, quoi.
Bon, on en a dévié un peu, parce qu'au début, le fine-tuning, je me souviens que c'était quelque chose il y a en 2022,
On sait pas.
2023.
En fait, je sais pas si on en a dévié. On sait pas ce qu'il y a dans la boîte noire derrière
Ah non.
Anthropic quand tu l'appelles, tu vois.
C'est vrai que peut-être Claude Code, c'est probablement un modèle fine-tuné sur cet
Sur du
harness,
code.
d'ailleurs, non? Sur la génération de code.
Ouais, sans doute, ouais. Sans doute. De la même manière que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça sur GitHub, mais on a un flag qui est arrivé sur chaque repo qui nous dit que tu peux désactiver ou activer
Ah oui,
l'entraînement.
en effet.
L'entraînement de l'agent Microsoft là
Vous
sur
avez désactivé?
J'ai pas coché
moi oui
encore. Je crois que j'ai le bandeau qui s'affiche et
voilà le bandeau
voilà. J'ai le principe de l'information récurrente et je vais le voir afficher pendant genre un mois et je ferai un truc.
c'est là où tu découvres qu'il y a plein de flags en fait liés à Copilote c'est ce que j'ai fait
Ouais.
hier tu me dis ah oui il y a tout ça on l'utilise pas donc on a tout killé tout désactivé.
Si on regarde les modèles, cette semaine, il y a Mistral qui a sorti Voxtral, Text to Speech, qui est open weight, je crois, je ne dis pas de bêtises. 4 milliards de paramètres. Alors, je n'ai pas testé, mais il y a eu des bons feedbacks dessus de ce que j'ai vu le retour sur Internet. Donc, hâte de tester.
Sur la même, il y a UltraFast Whisper, un truc comme ça, un libre open source qui a été sorti.
Ultra
Alors,
fast
c'est pas
whisper.
le wording, il n'est pas exactement, je crois que c'est à peu près ça.
Donc, c'est
Insanely
une
fast.
fast.
J'étais pas loin. Et ça, c'est sorti aussi, j'ai vu ça cette semaine. Donc, c'est un peu sur le
Mais
même.
3 years ago, what
Non, c'est pas ça.
the Bon.
D'ailleurs,
C'est pas
j'avais
grave.
vu, je sais pas si vous l'aviez vu passer, la conférence d'Arthur Mensch à Polytechnique. C'était assez intéressant. Parce que bon, forcément, il essayait un peu de montrer les muscles par rapport aux deux gros qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Mais bon, ça fait pas mal de temps que je l'avais écouté, mais je connaissais pas vraiment le gars, et à part de nom, en tout cas, j'avais trouvé son discours assez, en tout cas, assez pertinent, quoi.
J'ai
Bah,
juste vu des passages, j'ai pas écouté.
il est pas dans, tu sais, dans le techno-solutionnisme, je sais pas comment on peut le dire, mais
Ouais.
enfin, voilà, forcément, il parlait quand même énormément de gouvernance de données. Il parlait des risques. Enfin, ça relie un peu le sujet dont on avait
Bah, il
parlé
sait à
l'intro.
qui il vend, il sait à qui il vend
Ouais,
justement. Exactement.
forcément, ouais.
C'est leur gagne-pain, quoi.
Exactement, ouais.
La souveraineté, comme on dit.
Mais ils n'ont pas tort, entre guillemets. Et
Clairement.
il parlait, comment dire, de l'avenir, en fait, pour les juniors. Et, comment dire, il invitait tout le monde à faire des thèses, à faire des thèses sur ces sujets-là. Je trouvais que, bon, après, c'est bien. On était à Polytechnique, donc, mais c'était assez intéressant.
Vous utilisez Mistral au quotidien ou même pas au quotidien,
Au
de temps en
quotidien,
temps?
non, j'utilise un petit peu, ouais, en perso.
Okay.
Au quotidien, non, juste parfois je le run un peu dans Nao pour voir où est-ce qu'il en est. Et si, c'est la seule app de chat que j'ai installée sur mon téléphone. Genre, j'ai jamais installé ChatGPT, Claude, whatever. Genre, ça ne rentre jamais sur mon téléphone, ces trucs. Mais j'ai installé Mistral pour voir. Et je l'utilise un peu, j'avoue, pas trop non plus.
Tu l'aimais pas parce que tu as peur de toi passer trop tôt ou tu as peur qu'il regarde trop ton téléphone?
Un peu des deux. C'est genre, j'ai pas envie d'être sur mon téléphone et de faire du ChatGPT sur mon téléphone, bah, ou ChatGPT ou whatever, trop de LLM sur mon téléphone. Je trouve que j'ai pas envie de tomber dans cette loupe, quoi. De genre d'être la personne qui, à chaque fois qu'elle a une question, elle parle à son modèle, tu vois. J'ai pas envie de faire ça. Et aussi un truc que j'ai pas envie de mettre OpenAI sur mon téléphone.
Bah, tu
Ouais.
vois, ça relie le point juste d'avant sur OpenAI et l'idée qu'on
Ouais.
en a.
D'ailleurs, c'est
Côté.
pareil pour Claude, hein. Même si j'aime beaucoup Claude, j'ai pas envie de mettre non plus de mettre Claude. Genre, Mistral, je l'ai fait parce que je voulais voir leur UI, je trouve qu'ils ont une bonne identité et je voulais tester pour voir ce que ça donnait.
Yes. D'ailleurs, en parlant de Claude, je ne sais pas si vous aviez vu passer, je l'avais mis sur LinkedIn, c'était la vidéo de Claude avec le sénateur américain là.
Ouais, Bernie Sanders. Je
Ouais,
trouve que
c'était.
c'est la mise en scène qui me fait marrer. Le
Ouais, c'était
setup,
par.
c'est ultra à l'américaine, genre, c'était
Ouais.
juste, enfin, c'est trop bien fait, quoi.
Bah, ça a été fait par le réalisateur de. Comment il s'appelle là? Ah, en fait, qui avait fait Fight Club, non? Bref.
Ah
Comment
ouais?
il
Ok.
s'appelle? David Fincher, ouais. C'est ça. Donc, ton intuition était bonne. Je crois que c'est ça. Mais ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que j'avais l'impression, tu vois, de revoir un peu 2001, Odyssée de l'espace. Parce qu'il y a un moment dans ce truc où, en fait, il parle de manière très fluide. D'ailleurs, l'interface vocale avec Claude fonctionne très bien en anglais, pas en
Ouais.
français. Et il est très réactif. Et à un moment donné, alors c'est tourné, j'imagine, en direct, Claude prend le temps de répondre. Ça tourne. Pas très long, mais par rapport au flux du truc. Et il a réussi à le triquer. C'était assez intéressant. J'ai trouvé ça rigolo, en tout cas, il a été préparé, mais. Puis j'aime bien le décor, tu vois.
Ah non,
Même
mais
si.
le décor est sympa, la mise en scène est sympa, mais c'est vraiment du cherry picking. En fait, le cherry picking de conversation, je trouve que
Ouais.
ça apporte pas grand-chose.
Mais la mise en scène était. J'aime bien, toi, l'idée, tu vois.
Est-ce que c'était vraiment
Ouais.
Claude Code d'ailleurs? On sait pas. Hein. Ils ont peut-être vaillé-codé
Non,
une
c'était
petite app qui
l'application
ressemble.
Claude.
Non, c'est
Ouais.
l'app Claude en fait. Oui,
L'app
non, mais
Claude,
peut-être
je suis
qu'ils ont
même.
fait l'histoire pour qu'ils sortent exactement le bon truc en
Ouais.
sortie.
Je suis pas sûr.
Ça
Je
se
suis même
tweak
pas sûr que
facilement.
ça a été fait avec Anthropique parce que c'est quand même posté sur sa chaîne. Bernie Sanders, c'est pas.
Ouais.
Il est quand même plutôt à gauche, quoi, voire même très à gauche. Donc je pense pas que. Je pense qu'il est là pour montrer, tu vois, les limites de l'outil. Et d'ailleurs, à un moment donné, il arrive à la prendre en défaut et à lui répondre. C'est le truc que j'ai reposté. En fait, pourquoi tout ça? Pour l'argent. Voilà, c'est juste la réponse. L'argent.
Ouais, mais ça, c'est
L'argent.
du cherry picking de conversation. Enfin, genre, juste
Non,
le pour l'argent.
ah, mais
Les gars, ça veut
je
rien
pense
dire quand
pas
il dit pour l'argent.
je pense pas qu'il l'ait coupé. Je
Ouais.
pense pas qu'il l'ait coupé. En tout cas, écoutez, j'ai trouvé que c'était intéressant.
Ouais, non, mais c'est super. Enfin, je pense que c'est un bon. Cette semaine, il y a aussi ArcGIS 3 qui est sorti. ArcGIS, qui est, enfin, je sais pas si vous avez suivi, qui est en gros le gros benchmark qui regarde un peu le reasoning des modèles. Et en fait, la manière dont ça fonctionne ArcGIS, c'est des puzzles qui sont hyper simples à faire en tant qu'être humain, mais qui sont durs à faire pour une AI, quoi. Et sur ArcGIS 2, on est arrivé à un état où je crois que les AI commençaient à tous les résoudre. Et
C'est un
là, ils ont sorti un
Français.
nouveau bon. Ouais, c'est un Français, François Chollet, qui avait écrit un bouquin sur le deep learning et qui est associé à un ancien cofondateur de Zapier, quoi, si je dis pas de conneries. Et du coup, là, ils ont sorti la nouvelle version, donc ArcGIS 3, et les modèles ont 0%. Enfin, genre, ils sont sortis et les modèles ont 0%
Oh.
sur les trucs. Et les puzzles, j'en ai fait, genre, j'ai fait la première vague, là, des 7 puzzles. En tant qu'humain, c'est trop facile. Enfin, c'est pas trop facile, mais genre, c'est facile à faire. Là, par exemple, il faut bouger ce cube, donc il te donne aucune instruction, tu dois comprendre ce que tu dois faire. Donc là, si je vais là, je vais là, oh, bah, ça marche pas. Ça marche pas, je comprends pourquoi. Ah bah oui, mais c'est parce que l'image ici, c'est pas la même qu'ici. Donc il faut que je la pivote. Et donc là, je dois aller pivoter l'image. Donc je vais pivoter l'image. Ok, je l'ai pivoté. Et du coup, maintenant, je peux m'escape. Et donc c'est ces trucs-là qu'il faut comprendre. Et donc tu as des trucs comme ça. Et sauf que là, vous voyez, quand j'avance, ma barre jaune, elle baisse. Et du coup, pour recharger ma barre jaune, il faut que j'aille sur un carré. Et le carré va recharger ma barre jaune, mais il faut que je pivote et tout. Et ça, nous, en tant qu'être humain, on le comprend instantanément quand on regarde le truc, quoi. Et là, les modèles actuellement, c'est humans 100%, ils arrivent à faire tout avec un nombre d'actions. Et les agents, là, ils sont à 0% aujourd'hui sur ces trucs.
Mais ça m'étonne pas. Bah là, de nouveau, les 10%, c'est ce qui leur manque. C'est là comprendre les trucs, quoi. Il leur manque le
Ouais,
sens
bah,
commun.
il y a
Il leur
besoin
manque le sens commun.
d'avoir le sens
Et c'est
commun.
trop stylé de voir ça. C'est que là, depuis, genre, on s'est
Ouais.
habitué, genre, depuis un an, à se dire, putain, ils arrivent à résoudre tout, genre,
Ouais.
ils résolvent les problèmes de maths. Et là, genre, 0%. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, putain, c'est ouf.
Ah, brillant. Mais franchement, parce que je pense que c'est du travail derrière, hein, pour designer
Ouais.
le truc. Mais
Ouais.
brillant. Ouais, impressionnant.
Et du coup, il y a plein de types de jeux différents. Là, par exemple, là, quand ça, c'est trop. Mais ça, j'ai un peu galéré au début. C'est que, genre, quand tu bouges, là, vous voyez pas, mais en gros, genre,
Un miroir,
ça bouge
ouais.
les deux côtés en miroir, mais c'est pas les mêmes côtés. Et donc, tu vois, je l'ai pas réussi du premier coup, j'ai fait. Mais après, quand tu retries, tu y
Bon, du
arrives,
coup,
quoi.
c'est 99% maintenant le côté humain, non? C'est ça.
Non, parce que j'ai quand même réussi à le faire. C'est juste que je suis
D'accord.
mort. Et je sais pas trop comment il compte la mort. Ah, bah, tu vois, par exemple, celui-là, Claude de Puce, il a réussi. 0,61% sur celui-ci. Bon, bref, voilà.
Disait Julien, je pense que c'est là le, tu vois, c'est peut-être ce qui nous reste en fait, c'est ce 5-10%. La question,
C'est-à-dire
c'est
qu'on verra jamais d'agent en production, vraiment en production pour de vrai, quoi. Ou bien.
bah, ça dépend du travail que tu as eu faire.
On peut faire des
C'est
résumés, ça, des trucs comme ça, ok, mais là, t'auras pas vraiment non plus. T'auras pas vraiment. Enfin, je sais pas, ça peut. Tu peux pas générer non plus de la valeur ajoutée en faisant que des résumés de PowerPoint, quoi.
Non, bien sûr, bien sûr.
Mais
Bah, la
du
production de code, hein. Est-ce que la production de code, on le met dedans?
Là, c'est un bon point. C'est un bon
Non,
point.
mais par exemple, aujourd'hui, je sais pas comment vous faites, mais moi, le code, je le regarde quasiment plus. La PR, elle est auto-review. Et au bout d'un certain moment, en fait, c'est là où tu commences à regarder. Et
Moi, cette semaine,
95% du temps, les PR, elles sont bonnes, en fait. Il y a des
je
petits
suis tombé
détails,
sur un
etc.
bug dans l'app que j'ai dû lancer au moins une dizaine ou une vingtaine d'agents avec des boucles, avec des prompts différents. Et l'agent n'a jamais trouvé le bug. Et j'ai dû retourner dans le code et faire des console logs, alors que ça faisait, je pense, un certain temps que je n'avais pas mis des console logs pour genre débugger mes trucs et vraiment recomprendre où est-ce que c'était. Et elle a vraiment pas compris, quoi. Il faut que j'écrive un petit article de juste ce truc-là, c'était en React, un truc, elle a pas trouvé, mais genre, je comprends pas pourquoi elle a pas trouvé, mais.
C'est étonnant. J'avais le même, tu vois, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'avais un cas comme ça qui était identique. Où à un moment donné, en fait, nous on fait du data mining comme ça en mode non supervisé le soir. Et alors on ne fait pas avec des notions de température, parce que tu peux aussi faire ça, tu sais, pour rendre les modèles de plus en plus autonomes. Et il nous a halluciné, en fait, dans une analyse des noms de marques de produits. Donc nous, on vend de la cosmétique, là, c'est joli. Et il nous a halluciné des noms de produits. Et en fait, j'ai analysé, en fait, j'étais étonné, en fait, parce que d'habitude, il ne le fait jamais. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Je sais pas, c'était. Encore une fois, le problème, c'est que c'est non reproductible parce que je pense qu'il faut avoir le setup et il faut faire le run. J'ai essayé de rerunner le truc, il ne l'a pas fait. Donc, je l'ai rerunné. Enfin, je ne l'ai pas rerunné, j'ai récupéré les informations, les marques, et j'ai essayé de comprendre comment il a fait pour les générer. Et en fait, c'était super pertinent. C'est-à-dire qu'il a halluciné quelque chose qui était potentiellement pertinent pour le business. Parce que je suis allé voir les gens en responsabilité comment dire, des marques chez nous. Et j'aurais dit, et ces marques-là, en fait, ça existe ou pas? Et on m'a dit, oui, ça existe. Et oui, ça a potentiellement du sens pour telle raison. Et j'ai trouvé ça fascinant, mais je sais
Ah,
pas
c'est ouf.
si, tu vois.
Ouais.
Et là, on est dans un autre cas, tu vois, le cas de où peut-être est-ce que l'hallucination, c'est pas une feature qu'on sous-estime? On essaye tellement de les concentrer, de les bloquer, tu vois, dans nos canevas, tu vois, de workflow. De
Ouais.
peut-être que c'est un truc qui, bon, je sais pas, peut-être pour plus tard en tout cas, mais
Et ça me fait
c'était un.
penser, il y avait Anis de Defend Intelligence qui avait fait un post LinkedIn à un moment sur Le Bon Coin a fait un MCP qui est dans ChatGPT ou une ChatGPT Apps. Et du coup, dans ChatGPT, on peut pool, je ne sais pas si c'était Le Bon Coin ou Sologer, mais bon, tu peux pool des listes
Bon point,
de quoi, de appartements et des trucs comme ça. Et du coup, j'étais allé voir la liste qu'il avait scrapée à l'intérieur, quoi. Et en fait, mais c'est ça, c'est du chatting. J'avais vu un post Hacker News aussi à un moment, genre il y a 2 ou 3 mois. En fait, quand tu regardes les liens, c'est assez drôle. C'est les 10 premiers liens, ils sont nickel. Les 10 derniers liens, ils sont nickel. Et en fait, quand tu vas dans, genre, suis au milieu à un moment, il t'a écrit un lien qui est parfait. Et genre un appartement, un truc parfait. Et quand tu cliques dessus, c'est genre une
il
tétine pour enfant, tu vois. Ou c'est
ah.
genre un truc qui a rien à voir. Je sors
C'est
de.
plus que c'était le bon coin.
Ouais.
D'ailleurs, oui, il y avait un bon backslash avec ça, d'ailleurs, parce qu'il y avait pas mal de données qui étaient exfiltrées.
Ouais.
Enfin, je n'ai pas suivi, mais je pense qu'ils ont révisé leur copie. Mais oui, ça hallucine, ouais. Ça hallucine pas mal, ouais. Moi, j'ai ça de temps en temps où il m'hallucine des liens comme le MCP Notion, par exemple. On crée
Ah oui.
des articles en Notion. Le lien n'existe pas, mais il a créé l'article pour lui. Il va toujours le trouver, il va toujours faire. Il va essayer de le faire, et puis bah, s'il n'y arrive pas, tant pis, il le fait quand même. Virtuellement, mais il le fait. C'est intéressant. Bitagent, on passe là-dessus. Intéressant.
Vas-y, Julien, mais peut-être Julien, tu voulais dire un truc.
Non, non, c'est juste
Ah.
bon, pour enlever, mais juste un news qu'on a oublié dans la liste, c'est Light LLM, ce qui s'est passé cette semaine.
Ah ouais, ça c'est ouf.
Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on parle.
Ouais, ça c'est pas mal, ouais.
C'est violent, c'est vraiment violent pour le coup. Parce que j'ai des clients qui utilisent ça, et du
Ah ouais.
coup, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais.
Bon, peut-être tu peux peut-être aller sur Hacker News pour le trouver.
Ou sur X, tu l'as trouvé avec Carpathie, là, le poste de Carpathie.
Ok, let's go. Ouais, au truc qui s'est passé cette semaine, c'est l'attaque, la supply chain attack, ils appellent ça, sur Light LLM. En gros, ce qui s'est passé, si je ne dis pas de bêtises, c'est le mainteneur de Light LLM s'est fait hacker. Et du coup, il y a du code malveillant qui a été poussé sur le repo et qui a été publié. Et qui est du coup Light LLM, qui est un wrapper sur tous les providers de manière assez
D'accord.
simple en Python, qui permet en Python de se connecter à tous les providers. Faisait de l'exfiltration d'API key, de l'environnement complet de la machine. Enfin, je crois qu'il prenait
C'est
le. Il
violent.
faisait un export du point env et il a envoyé toutes les variables d'environnement. Et ça envoyait ça sur un serveur, je ne sais plus trop où est-ce que ça envoyait ça.
Et c'est assez tricky parce que c'était genre quelque chose, point LightLLM, point quelque chose. Donc en gros, c'était assez plausible que ce soit LightLLM. En fait, c'était pas
Ah
eux.
oui, c'est ça. Oui, c'est ça, t'as raison.
Et c'était
Ouais.
vraiment très bien fait. Et puis ça, en fait, en plus, c'est du code en bash64 qui est injecté, qui est installé. Je crois que c'est même un système D, c'est-à-dire que le truc qui s'auto-start aussi tout seul,
Ouais.
il me semble. Donc c'est vraiment c'est assez violent. Et en fait, juste tu pulls l'image, ou même, en fait, il n'y a pas que eux. Si tu prends DSPY, par exemple, qui utilise LightLLM en dépendance, bah, tu te récupères aussi le code malveillant. Donc en fait, c'est vraiment. Ça explose de partout. Et c'est un sacré risque. Enfin, je sais pas comment les grosses boîtes font pour se protéger contre ça. Mais je pense que c'est un sujet qui est vraiment pas simple. Vraiment pas
Ah mais
simple.
ça a toujours existé ce genre de truc, mais là c'est à une puissance plus élevée. Mais ça, les attaques genre sur NPM dans le passé, sur des lib NPM, ça a toujours existé. Genre une grosse boîte, elle peut pas trop faire gaffe si un dev il fait un bump d'une version sur un truc NPM ou PyPy, peu importe. Hein. Tu t'en rends pas compte quoi. Donc les grosses boîtes, la manière dont ils s'en prémunissent en général, c'est que tes versions, tu dois les figer. Et si tu veux faire une montée de version, tu dois faire un PDF, envoyer des emails à 10 000 personnes et tu peux pas faire de montée de version, quoi.
Bah, t'as l'Artifactory qui est fait pour ça, en général.
Ouais.
Oui. Qui sert un peu de tampon, zone tampon, mais après,
Mais
j'imagine
ça,
que
je
les.
suis même pas sûr
Bon,
que ça soit détecté par l'Artifactory, ce genre de
bah
truc.
justement, ça, c'est la question.
en parlant de poisoning, il y a le poisoning de skills, qui, à mon avis, est plus un sujet
Ouais.
encore plus compliqué. Ça,
Ouais,
c'est
là-dessus,
un
là,
autre.
j'avais commencé un démonstrateur qui était genre écrire un skill qui utilise une lib à moi que je coderais rapidos, qui fait genre du CSV to Excel par exemple, et dans le CSV to Excel, tu fais de l'exfiltration de données. C'était juste pour faire une démo et montrer que en fait c'est trop facile d'écrire un skill qui vole ta donnée quoi. Juste je crée un skill qui s'appelle CSV to Excel, ça utilise ma propre lib qui est sur PyPy, tout single digit, mais dans mon CSV to Excel de PyPy, bah il y a un truc malveillant quoi.
Là, c'est probablement le plus gros risque de passer d'avoir un serveur central qui expose une app sur un truc web, VS avoir tout le monde avec son cloud code sur sa machine
Bah
en
ouais,
mode complètement
bah
centralisé.
oui.
Ça t'expose encore plus en fait. Enfin, t'as du bénéfice parce que bah, tu vois, les gens sont plus autonomes, mais tu as plus de risques aussi, quoi.
Ouais, bah ça rejoint le sujet, tu vois, du tout début avec ce que tu l'exécutes, tu vois, sur un VPC, avec accès à ta boîte mail, avec toi, toute ta vie.
Ouais.
C'est un truc bien isolé. Alors, c'est pas que de la sandbox, mais un conteneur, un truc vraiment sécure, quoi.
Bon, ça va revenir. On va tous faire du cowork et bien on va revenir avec des. T'enlèves le co du work, tu gardes le work sur un certain
Voilà.
nombre.
Des papiers, sur des papiers, il n'y aura pas de
Voilà, ouais.
problème.
Et la calculette.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, cette semaine, Git Agent, là, qui a fait un peu le. Que j'ai vu à plein d'endroits partagé. Ce que j'ai l'impression que c'est une manière dans un repo Git de déclarer un AI agent, quoi. Donc en fait, tu définis tous les trucs, là, SAO, rules, agent, un peu son context window. Franchement, ça ressemble un peu à des trucs qu'on a imaginé dans DAO, quoi. Et à la fin, bah, du coup, ça fonctionne dans tout ce protocole-là, tu peux l'exporter et le faire fonctionner en Cloud Code. J'ai pas testé, mais ça a fait un peu de buzz ces derniers jours. Open standard, bon voilà, je sais pas trop s'il y a grand chose à dire. Je pense qu'il y a un autre truc qui était cool, il reste quoi? Ouais, bon, pas beaucoup de temps. Un autre truc, moi je l'ai bien aimé et que j'avais en réflexion depuis un certain temps, c'est que en fait, Stack Overflow, bon, a été tué par les agents et globalement, on a privatisé le knowledge Stack Overflow. Avant, ce qui se passait, quand il y avait un bug, on le mettait en public et tout le monde était un peu aware du bug. Maintenant, c'est les agents, vu qu'ils corrigent eux-mêmes leurs bugs, c'est de la donnée qui devient privée chez les fournisseurs, les Foundation Labs, quoi. Et il y a peut-être toujours besoin d'un Stack Overflow for AI Coding Agent, quoi, où un agent, en fait, quand il a un bug qu'il estime qu'il n'a jamais vu avant, qu'il puisse le republier sur Internet pour que d'autres agents puissent l'utiliser à un autre endroit, quoi. Et là, il y a ce truc-là, la Sécu, Stack Overflow for AI Coding Agent. Donc ça, c'est Mozilla qui a proposé ça comme un protocole et de définir ce truc-là. Et il y a une boîte qui a fait littéralement ça, la Stack Overflow for AI Coding Agent. C'est tu mets des skills dans ton agent. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand il voit quelque chose qui est intéressant et qui pense qu'il doit le partager à d'autres gens, bah, du coup, il va le partager et voilà. Et d'autres agents pourront le pull, en fait.
Ouais. À voir qu'il pousse pas des trucs trop sensibles.
Bah ouais, c'est une bonne transition.
C'est ça.
Exact. En fait, c'est la limite est fine entre. On en avait parlé avec Julien Rapidos, mais avec Modebook ou tous les trucs réseaux sociaux, est-ce que le truc devient pas ensuite une pub de, enfin, ou un réseau social de pub et pas on perd un peu le purpose du truc, quoi.
En fait, le truc c'est que là, en fait, si t'as agent ou agent, parce que tout le monde utilise le même modèle aujourd'hui. Donc la probabilité qu'il y ait un autre agent, je ne sais pas si, enfin, en gros, si un autre agent a résolu le problème, ça veut dire qu'il y a un ingénieur qui l'a aidé à résoudre le problème. Donc en fait, tu as ingénieur, agent, agent, ingénieur, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est plutôt avoir des ingénieurs qui mettent leurs connaissances dans des skills et vendent ces skills. Donc c'est plutôt agent ou ingénieur qu'il faut soulever. Ben, je ne sais pas si
ça j'y crois beaucoup, cette idée de ne pas publier les skills. Je pense que c'est un truc dont j'entends déjà parler, en tout cas, voilà, des gens qui font de la rétention.
Mmh. En fait, ça se monétise, quoi, logiquement.
Ça se monétise, typiquement, voilà, j'ai un billet de blog là qui est quasiment prêt là-dessus, voilà, dans une grande banque, je ne vais pas donner le nom, mais c'est exactement ce qui se passe. Il faut partager collectivement les skills au niveau du repo, bah, ils font de la surcharge, ils gardent leurs skills pour eux, et ils font un peu de poisoning de skills, mais très gentiment, juste pour que ça diffuse
en interne.
Parce qu'en fait, là, pour le coup, c'était une équipe d'Indiens qui vient dans la team et ils ont bien compris en fait quel était le but.
Ouais.
Bah, ça va être une réalité, je pense. Amazon, c'est ce qui s'est passé en partie. Pas mal de gens sur les 18 000 personnes qui avaient été licenciées.
Je comprends pas. Genre, les skills, la plupart des gens, ils les font écrire par des LLM. Le knowledge qui est genre concentré dans le distillé dans le skill, il y a quoi là-dedans, c'est du texte.
Je pense que c'est un peu des guidelines quand même, comment tu construis une web app, t'as quand même 10 000 manières de faire, comment faire un bon truc d'authentification, je sais pas, il y a quand même quand même de la connaissance derrière.
Bon, on va s'arrêter là. Épisode assez court, merci Alexis d'être revenu, je pense que de toute façon on se refera ça plusieurs fois, c'est toujours trop cool.
Avec plaisir,
toujours des bonnes idées.
Salut. À plus.
Salut.